Merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que tu nous as appelés ce matin pour que ta parole soit annoncée au Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons te rendre des actions de grâce. Avant de commencer ce message, je voudrais que tout un chacun dise à la personne qui est à côté de lui, frère, sois le bienvenu, sœur. Ma sœur, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Parce que nous savons que dans la maison de l'Éternel, Dieu fait des grandes et des puissantes choses. Que Dieu soit celui-là. Que Dieu soit celui-là qui nous garde, qui nous remplisse de son amour, de sa joie, de sa paix. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas la donner, mais c'est Christ qui est au-dedans de nous, qui nous donne cette grâce de pouvoir partager sa paix. C'est Christ qui nous donne la force. Nous sommes indignes. Et comme nous avons su chanter sur, avec ce chant, que nous sommes des vases d'argile que Dieu a rachetés, que Dieu a pris à fabriquer pratiquement pour être utile pour son royaume. C'est vrai que je ne suis pas digne, mais je sais, celui qui m'a appelé, il est fidèle, et celui qui me fortifie, c'est lui qui me donne l'occasion de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Nous allons nous incliner pour prier. Père très saint, je te bénis, je te rends des actions de grâce pour ce matin. Parce que de ce vase d'argile, au Dieu Tout-Puissant, Papa, tu veux que ta parole puisse être annoncée. Je ne suis pas digne de toi, Papa, mais le sang qui est à la croix de Golgotha a coulé me rachète, me justifie et me pardonne, au Dieu Tout-Puissant, Papa. Je te rends des actions de grâce ce matin parce que je sais que je ne connais rien. Je veux juste te remettre mon corps afin que tu l'utilises pour porter cette nouvelle. Cette nouvelle qui nous transforme, cette nouvelle qui nous change, cette nouvelle qui nous bénit, cette nouvelle qui nous délivre. Ô Dieu, touche mon cœur, touche le cœur de ma sœur, de mon frère, ce matin, afin que cette parole puisse être un point de départ pour une vie nouvelle en Christ Jésus de Nazareth. Et que le Saint-Esprit soit au centre. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses pour la seule gloire du nom de notre Dieu, l'Éternel des âmes. Jéhovah Shalom, qui nous donne la paix. Gloire nous soit rendue au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous continuons sur nos enseignements, les enseignements que nous avons commencés sur les actes des apôtres. Nous voyons que ce n'est même pas les apôtres, ce ne sont pas les actes des apôtres, c'est les actes de Jésus lui-même qui sont en train de se réaliser au travers du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, qui a donné la puissance aux disciples de Jésus pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Ah oui, cette parole qui nous a demandé, qui nous a donné cet ordre en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que jusqu'à la fin du temps, notre Seigneur sera toujours avec nous. Quelle grâce de savoir que même dans nos afflictions, dans nos faiblesses, que notre Seigneur sera avec nous. Même dans nos fuites, notre Seigneur sera toujours avec nous. Nous voyons comment, au travers de la parole de Dieu, ce qui a été déjà prêché, nous voyons comment Cette parole, cette bonne nouvelle est en train de se propager. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Je n'en sais. Mais je crois que c'est, si ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, après que le Saint-Esprit soit descendu, que la puissance de Dieu soit descendue, les apôtres, les disciples avaient cette ferveur de pouvoir aller annoncer la parole de Dieu. Et cette parole qui commençait à déranger certaines personnes, les pharisiens notamment, a commencé à persécuter l'Église, commencé à arrêter la propagation de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons vu la semaine dernière comment Saul, Étienne plutôt, a été lapidé. Et cette persécution a entraîné la mort de ce dernier sous le regard de Saul, qui était fervent défenseur du judaïsme dans toutes les nations. Ce matin, nous allons voir comment Jésus nous donne une nouvelle vision pour cette mission qui doit établir le royaume de Dieu sur terre. Notre compagnon, le Saint-Esprit qui est là, nous enseigne comment y participer. Franchement, je vous avoue que quand lisant les paroles de l'apôtre Paul, j'ai été subjugué, j'ai été vraiment marqué. Je me suis dit, comment cet homme a pu écrire des choses puissantes, des choses grandes, des choses que nulle personne avait dites. Et j'ai compris l'immense bonté de Dieu envers nous, pour qui cette parole n'était pas destinée. Et nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus par la foi, à travers de la promesse faite à Abraham et que Jésus est venu accomplir par son sacrifice qui nous réconcilie au Père. Personne, mais personne, mis à part, Jésus n'a exercé une grande influence dans le christianisme. Paul l'a fait. Et c'était le cas, ce monsieur, avant sa conversion, il était déjà dynamique. Il était fervent. Il aimait la parole de Dieu. Et après la mort d'Étienne, son acharnement contre les chrétiens qui les a forcés à obéir à l'ordre de Dieu afin qu'ils puissent émigrer vers d'autres lieux, d'autres pays, d'autres nations. Parce que, en fait, c'est ce que je disais tantôt, est-ce que c'était un concours de circonstances que Étienne soit mort pour que les disciples puissent aller annoncer la parole de Dieu? Mais tout est-il que le plan de Dieu se réalise, commencer à se réaliser, surtout pour nous qui n'étions pas appelés enfants de Dieu. La rencontre personnelle de Paul avec Jésus a transformé sa vie. Il n'a rien perdu vraiment de sa ferveur, comme je disais. Mais il a mis au service de l'évangile qu'il condamnait. Saul de Tarse, de son nom, est devenu l'apôtre Paul. Il était très religieux avant, bon pharisien, connaissant les Écritures. Il appliquait à le mettre en pratique parce qu'il la connaissait. Il pouvait se dire même qu'il était la norme. Parce que, en fait, cette parole, il l'a pratiquée, il la mettait, il la connaissait. Et cette norme a fait que de lui, qu'il puisse juger certaines personnes qui étaient loin du judaïsme, qui commençaient à aller vers cette nouvelle doctrine. Certains disent cette nouvelle voie, cette doctrine nouvelle. Pour lui, c'était impensable que les gens puissent ne pas respecter la loi. Et il était vraiment religieux. Et comme il croyait, et il était persuadé que le mouvement naissant représente un danger pour le judaïsme, il a commencé à les pourchasser. Et il déteste donc la foi chrétienne. Et persécute sans pitié ses adeptes au point d'aller demander l'autorisation d'aller jusqu'à Damas. Jérusalem jusqu'à Damas, ça faisait plus de 250 kilomètres. Il partait pour arrêter ceux qui ne suivaient pas le judaïsme. et ceux qui commençaient à suivre Christ pour les ramener à Jérusalem. Et c'est le 4 qui nous est fixé pour voir comment Dieu peut nous arrêter dans notre marche. C'est ce cadre que Dieu peut, veut nous montrer comment est-ce qu'il peut nous donner une nouvelle mission pour lui. Une mission. Surtout que nous avons d'autres perspectives actuellement avec le bâtiment, avec tout ce qui s'ensuit. Et nous disons que Dieu a une mission. Et cette mission, il veut que nous soyons ceux qui vont l'accomplir au travers de sa parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes là ce matin, je ne suis pas sûr que ce soit un hasard, mais c'est qu'il vous a choisi pour cette mission. Cette mission, dans vos faiblesses, dans nos incapacités, dans nos doutes, dans nos découragements, il nous connaît. Et ce Dieu qui nous connaît nous a appelés pour cette mission. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 9, du premier verset au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas afin que, s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il le prie. Il a vu en vision un homme au nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva, fut baptisé, et après il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Dans la version Semeur, il est dit que Saul persécute les hommes et les femmes qui suivent la nouvelle voie. pas la nouvelle doctrine, mais la nouvelle voie. N'est-il pas dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie? Donc, lui, il persécutait les personnes qui étaient sur la nouvelle voie. Saul ne comprend pas pourquoi et comment ce Jésus puisse être le béni de Dieu. En fait, il était subjugué du fait que lui, dans la connaissance du judaïsme, dans tout ce qu'il avait, dans la rigueur de la loi qu'il pratiquait, qu'il y ait des chrétiens, des disciples de Jésus, qui puissent pratiquer avec liberté la parole de Dieu. Ils étaient joyeux. Lui ne comprenait pas, en fait. Pourquoi? Il ne comprenait pas non plus pourquoi celui pour qui elle a dit « maudit » et quiconque est pendu au bois, c'est Jésus, puisse être un béni de Dieu. Pour lui, c'était aberrant. Pour lui, il ne comprenait pas du tout. Lui, il était dans la rigueur, dans la discipline. Quand il fallait faire des jeûnes, il faisait des jeûnes. Quand il fallait pratiquer la parole de Dieu, il pratiquait avec toutes les prérogatives qu'il fallait pour la loi, pour cette parole. Il pratiquait. Et que la nouvelle doctrine qui arriva donnait la liberté à certains. Il ne comprenait pas du tout. Et c'est pourquoi il était furieux, il était fâché. Il était fâché. Il dit, mais c'est pas possible. Il a commencé à pourchasser. Il voulait nettoyer ceux qui ne mettaient pas en pratique la parole de Dieu. Il voulait nettoyer ceux qui pratiquaient la parole avec légèreté. Mon bien-aimé, la loi, elle est dure, elle était dure. Et heureusement que Jésus est venu parce que nous ne pouvons pas la pratiquer. Dans toute son intégralité, nous ne pouvons pas. Tout le monde de choses. Ne mange pas ceci. Dent pour dent. Ceci, tu ne dois pas faire. Le sabbat, jour de sabbat, tu ne dois pas faire ceci. Il y avait tellement des interdits. Et que personne ne pourrait hériter de la faveur de notre Dieu. Et Saul de Tarse, en voyant tout cela, il s'est dit que non. Il s'est érigé en censeur pour pouvoir nettoyer, pour purifier le judaïsme de ces personnes qui suivaient la nouvelle doctrine. Au verset 3, nous voyons comment il était en chemin s'approchant de Damas. Une grande lumière lui apparut. Cette lumière était lui-même Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Saul, quand il s'approche, il voit la lumière. Il voit cette lumière l'envahir, tétaniser. Il ne sait pas ce qui se passe. Lui, il croyait bien faire. La loi lui donnait cette prérogative. La loi lui donnait cette occasion de pouvoir l'appliquer. Il croyait bien faire. Il était dans la norme. Il faisait bien selon la loi. Mais cette lumière descendait sur lui. Cette lumière qui est Jésus. Saul tombe par terre et une voix se fait entendre. Saul est interpellé sur le but de sa mission. Saul est interpellé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui croyait qu'il était en train de persécuter les disciples, les partisans de la nouvelle doctrine. Il ne savait pas qu'il persécutait lui-même Jésus, qui est la tête de l'Église. Il ne le savait pas. Il croyait bien faire, mais il faisait ce qui n'était pas bien. Il croyait que sa mission relevait de Dieu d'anéantir tous ceux qui sont contre la loi de Dieu. Tremblant et saisi des fois, il se rend compte que tout ce qu'il faisait jusque-là n'était pas du plan de Dieu, mais plutôt celui des hommes. Et qu'il est aussi ignorant que tout le monde. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était ignorant, quoique connaissant la parole de Dieu, mais il était ignorant. La loi, elle est vraie. La loi, elle est bonne. Mais Jésus est venu accomplir la loi. Il croyait que ce qu'il faisait était bien pour la loi. Et il était convaincu qu'il était vraiment la norme. Selon la loi. Il la connaissait, la pratiquait, savait comment se faire pardonner quand il avait péché. Il nous arrive des moments où Dieu nous met en face de nos contradictions. Quand Paul nous dit dans le livre de Romains, je vais faire le bien, mais je fais seulement le mal que je ne veux pas, misérable que je suis. Dieu, des fois, nous met parfois devant nos contradictions. Il se rend compte qu'il persécute l'Église. Il fait mal à Jésus, qui est la tête de cette Église. C'est vrai. Des fois, il nous arrive de persécuter aussi l'Église sans nous en rendre compte. Parfois, par nos comportements. Nous agissons. Pour ma part, peut-être que je dirais. Et des fois, si j'ai été un objet de tristesse, une occasion de chute pour certaines personnes de l'Église, au travers de ma parole, au travers de mes actes, au travers de mes pensées, je demande pardon. Parce que des fois, nous ne savons pas ce que nous faisons. Il nous arrive des moments. Nous croyons bien faire. Mais nous ne faisons pas le bien. Nous détruisons. Nous devons nous rendre compte. Sans Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais bien aimé, je vous dis toujours, quand nous venons à l'église, ne regardez pas celui qui est devant, mais regardez celui qui vous a appelé. Il est fidèle. Lui ne change pas. Moi, Didier, je peux changer. Un jour, peut-être, je peux te lancer une parole qui va te faire mal. Je peux te dire quelque chose qui peut te blesser. Donc. Mais je suis Didier. Mais ne regarde pas cela. Ne me tiens pas. Rigueur de cela. Regarde à Jésus. C'est Jésus qui t'a appelé. Lui qui t'a appelé, il te connaît. Il sait ce qu'il a à faire avec toi. Dieu nous a appelé pour le suivre. Et ne regardez que celui qui est le rémunérateur de notre foi, qui le cherche en vérité. Ne pas renoncer à votre appel à cause de moi. Ce que vous appelez est fidèle. Nous avons bon chemin, ce que je disais. Saul, en écoutant, en voyant la lumière, il fait un constat amer de lui-même. Dans Philippiens 3, au verset 17. Au verset 7, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé. D'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Jésus. De Dieu en Jésus-Christ. Il se rend compte du mal qu'il fait. À ce moment, Saul de Tarse cède. Il cède parce qu'il comprend que ce qu'il faisait avant, c'était de la boue. Il comprend ce qu'il faisait avant, c'était rien. Il courait comme battant l'air. Il courait en vain. Et cette rencontre. Et quand il trouve cette lumière, il se rend compte que le véritable chemin, la véritable mission, ce n'était pas de persécuter l'Église, mais c'était de suivre et d'annoncer le Christ ressuscité. C'est sa mission. Saul cède et demande ce qu'il doit faire. Il y a des moments où nous ne savons pas quoi faire. Il y a des moments où nous ne savons pas. Nous venons à l'église. Nous cherchons Dieu, mais nous ne savons pas comment faire. Mais c'est à Jésus que qui nous avait prédestinés. Et bien aimé, il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Il n'y en a pas de hasard. C'est Jésus qui nous avait prédestinés avant que nous soyons. Oh, je ne suis même pas certain que dans mon entendement, je croyais que je pouvais peut-être être à Bussy-Saint-Georges pour prêcher la parole de Dieu devant une population venue de quatre coins de la terre. Dieu nous avait prédestinés avant la fondation. Et il nous connaissait. Alors, bien-aimé, ça me fait tellement de la joie de... Je m'excuse de le partager. C'est un témoignage que ma soeur m'avait fait une fois. C'était Suzy, il me dit, je ne connaissais pas Judith. Ils sont croisés dans l'église de Dieu. Peine, bonjour, ma soeur, bonjour, bonjour. Mais le jour de la mort de la maman de Judith, il s'est rendu compte, effectivement, que sa maman et la maman de Judith ont grandi pratiquement ensemble. Ils ont grandi ensemble au Cameroun. Ils se retrouvent à Bussy-Saint-Georges. La France, elle est tellement grande. Ils pouvaient se croiser à Bordeaux, à Strasbourg, mais à Bussy-Saint-Georges, dans l'église. Les parents se connaissaient. Bien-aimés, le plan de Dieu, nous le connaissons pratiquement. Nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu. Il nous arrive même de dire, non, je veux penser comme Jésus. Non, nous ne pouvons pas penser comme Jésus, c'est impossible. Le plan de Dieu dépasse notre entendement. Ce que Dieu fait est parfait. S'il nous a prédestinés, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a une mission pour nous. Cette mission, elle va s'accomplir.
par la volonté de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui arrêtent la volonté de Dieu. Si cette œuvre est de Dieu, elle continuera. Mais s'il n'est pas de Dieu, elle s'arrêtera. Mais bien, nous faisons attention. Ne croyons pas que c'est un concours de copinage ou amical où nous venons ici. Non, c'est le plan de Dieu. Dieu nous a appelés pour sa mission et veut que toutes les nations connaissent sa parole. Et c'est pourquoi, des fois, il nous choisit un à gauche, un l'autre à droite, l'autre derrière, partout. Sri Lanka, Madagascar, Centrafrique, Cameroun, Congo, Togo, Bénin, Antilles, États-Unis, partout, il nous rassemble. Il est en train de rassembler son royaume sur cette terre. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de cette parole. Je ne sais pas si vous comprenez la bonté de l'Éternel. Dieu, il est merveilleusement bon. Ne regardons pas aux souffrances actuelles. Mais soyons renouvelés par l'esprit pour comprendre certaines choses. Saul de Tarse ne comprenait rien. Il était dans la norme. Il croyait que tout ce qu'il faisait, c'était bien. Mais le jour où il a vu la lumière qui est Jésus, il a compris ce qu'il était, ce que Dieu avait préparé pour lui. Faisons attention. Et c'est là où l'on parle de conversion. C'est quoi la conversion? La conversion est l'ouverture de notre cœur et notre intelligence à Dieu et avec sa grâce, réaliser des véritables changements dans notre existence en se détournant du péché et en étant de plus en plus fidèle à l'évangile. Elle est indispensable à la foi. Elle permet de recevoir Christ comme sauveur. C'est ça la conversion. La conversion, c'est ça. Hier, je regardais comme ça. Demain, je regarde de l'autre côté, radicalement opposé. Et accepter ce que Dieu nous met. Accepter ce que Dieu met. Sans rechigner. Jésus dit à Saul, il te sera dur de réjambé contre les ignorants. Tu peux beau faire. Mais ce que Dieu a dit, il le fera en toi. Bien-aimé, c'était celui-là qui fouillait Dieu. Pour moi, Dieu, ce n'était pas ma tasse de thé. Pourtant, j'ai été élevé dans une famille où tous les dimanches, on partait à l'église. À Noël, on allait fêter tous. Le culte de Noël, on le ratait pas. Je croyais que je le connaissais, mais ce n'était pas en vrai. Je ne savais pas que Dieu m'avait prédestiné. Dans ma rébellion, dans ma vie, dans tout ce que je faisais, je ne croyais pas qu'un jour je puisse me mettre devant le peuple de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Comme Saul de Tarse, peut-être que je persécutais l'Église. Jusqu'au jour, j'ai quand même eu un flash comme ça de ma vie. J'ai déjà partagé ce témoignage. Mon frère m'a dit, grand frère, chez nous, cette norme de respect, dit grand frère, j'ai rêvé que tu étais en train de prêcher dans une église. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne le prie parce que je ne peux pas. Ce n'est pas mon chemin. Je ne peux pas le faire. Je suis resté pratiquement 3 jours, je crois aussi. J'étais tellement énervé juste à l'écoute de cette parole que je devais prêcher la parole de Dieu. Je me suis dit, moi, j'ai fait les études. Je suis en train de continuer ma vie avec des projets dans la tête que je laisse tout pour aller servir Dieu. Je ne voulais pas.
Nous sommes en 2019, je suis devant le peuple de Dieu. Mais Dieu, il fallait qu'il me descende plus bas pour terre pour que je puisse l'accepter. Il fallait qu'il puisse me descendre. Parce que orgueilleux, je l'étais. Têtu, je l'étais. Je ne voulais pas ces choses. Je suis tombé gravement malade. Quand je dis gravement malade, je suis tombé gravement malade. J'étais au point de mourir. J'ai mélangé toutes les maladies les plus graves sur la terre. Tuberculose, urogénitale, prostatique, infection prostatique, à l'âge de 30 ans. Et c'est là que j'ai dit, oui, je cède. Et c'est là que j'ai cédé. Parce que de moi-même, je ne pouvais. Parce que je me disais que j'avais un but précis. J'avais un canevas à suivre. Mais ce jour-là, Dieu a permis que je puisse être touché dans ma chair pour que je puisse revenir à lui pour faire sa volonté. Saul accepte de faire la volonté de Christ et reste 3 jours dans le noir complet. Comme Jésus qui était descendu dans les régions inférieures pendant sa mort pour nous réconcilier. Donc Saul, quand cette lumière est venue, il a rendu aveugle pendant 3 jours comme Jésus était resté 3 jours dans le noir. Et c'est là qu'il apprend ce qu'il doit faire. Il demande, que puis-je faire? Jésus lui donne sa feuille de route, sa mission. Obéissant, il va où Jésus lui demande d'aller pour être délivré de son aveuglement. Le plan de Dieu, comme je le disais tantôt, est toujours parfait. Et en son temps, il fait son œuvre sur nous. Saul était un éminent personnage dans le judaïsme. Cette grandeur qu'il avait, Dieu pouvait l'envoyer vers les apôtres pour qu'il soit délivré. Les gens de son rang, parce qu'il était du rang supérieur, ils pouvaient l'envoyer. Les apôtres, les Pierre, les Jean, les Jacques. Non. Il envoie à un disciple nommé Ananias, un simple disciple. Il envoie un simple disciple nommé Ananias. Il lui dit, Ananias. Ananias dit, mais voici Seigneur. Lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Jésus se présente à Ananias, un simple disciple comme toi et moi. Aujourd'hui peut Jésus venir te toucher pour faire son œuvre. Il peut venir te toucher. Ne crois pas que tu es le moindre de tous, mais Dieu sait pourquoi tu es là. Il a appelé Ananias. Va. Oh, dans nos réunions de prière, parfois il arrive, quand nous voulons prier, nous voulons un petit peu discuter avec Dieu. Oh, voilà, Dieu, à cause de cela, à cause de ceci. Ouais, Ananias. Bon, je ne dis pas ce kilo. Ananias répond, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui... Mais Dieu le sait. Arrête. Dieu le sait. Il t'envoie. On veut discuter un petit peu avec Dieu. Non, je ne peux pas le faire parce que Dieu sait ce qu'il te demande. Et dit, la seule réponse de Jésus dit, va. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans, devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu te dit, va, ne discute pas. Mais je ne sais pas, comme Moïse, je ne sais pas parler, va. On a toujours une raison pour pouvoir arrêter le plan de Dieu. On a toujours une raison. Dieu nous dit, va. Et l'ordre de mission, le sol étant établi, Ananias l'exécute et il va faire la volonté de notre Seigneur. Il va jusqu'au lieu où on lui avait indiqué pour pouvoir accomplir la mission de Dieu. Ananias impose les mains à Saul de Tarse qui recouvre la vue. Et Saul commence à voir. Quand il voit, il mange, il prend les forces. La nouvelle mission a commencé pour Saul de Tarse. Vous voyez comment Dieu peut nous emmener à pouvoir rentrer dans sa mission. Par une vision, Dieu nous montre le chemin à suivre. Il y a d'abord la vision, et après la mission. Ce n'est pas par notre force, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien, c'est Jésus qui peut tout en nous. Ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous faisons la mission de Dieu. Parce que je disais tantôt, nous sommes indignes. Nous sommes ces vases d'argile que Dieu a fabriqué, je dis bien, a fabriqué pour porter la bonne nouvelle. Donc nous sommes fragiles. Nous pouvons tomber et casser. Nous sommes que de l'argile. Donc nous sommes fragiles. Mais Dieu, de ces vases d'argile, a fait de nous des enfants de Dieu pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que quand il commence sa mission, Saul déclare, « Frère, je vous déclare que l'évangile que j'ai, qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, qui est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici mon Dieu. Devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Sicile. C'était la mission. C'était la mission pour laquelle Dieu avait fabriqué son Dieu. Qui est devenu Paul. Je ne sais pas ce matin pourquoi Dieu t'a fabriqué, je ne sais pas pourquoi j'aime ce mot, t'a créé. Mais je sais que si Dieu t'a créé, c'est pour une mission particulière. Annoncer l'évangile par le témoignage
de notre vie, par notre rencontre avec Jésus de Nazareth. Jésus nous appelle. Il nous connaît. Comme Nathanaël, quand il a commencé à appeler ses disciples, Nathanaël était assis quelque part. Philippe et les autres devraient dire, oui, viens, nous allons vers celui qu'on annonce, le Messie. Il était assis. Assis. Suis-nous. Il le suit. Donc, Nathanaël suit Philippe, Jacques et les autres. Quand il vient devant Jésus, il dit, voilà un vrai Israélite. Comment tu me connais? Jésus dit, quand tu étais assis sur le figuier, je t'avais vu. Bien-aimé, ne nous trompons pas. Il y a des fois, peut-être qu'on prend à la légère l'appel de Dieu. Mais Dieu nous connaît. Et il sait pourquoi il nous a appelés. Il a une mission pour chacun de nous. Il veut nous utiliser. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce de savoir que le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, nous connaît. Parmi les milliards, il nous connaît. Il nous connaît. Il sait. Un tel est là. L'autre est là. Il va nous prendre à un moment X. Il va prendre l'autre. Il va le ramener dans la maison de Dieu pour accomplir son œuvre. Nous ne pouvons pas comprendre la science de Dieu. Impossible. C'est au-delà de l'imaginaire. C'est inouï. Comprendre la science de Dieu. Notre tête, notre entendement est trop petit pour pouvoir comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Nous voulons parfois. Mais ce que nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. La vérité, nous la connaîtrons quand nous serons face à face avec ce Dieu. Comment est-ce qu'il nous a connus? Pourquoi il nous a créés? Nous le connaissons en ce moment quand nous serons face à face. Oui, je te connaissais parce que tu viens de telle famille, tu étais là. Tes parents ont fait ceci, mais je t'avais appelé pour que ta famille soit sauvée. C'est là où il va te dérouler le fil. Il va dire pourquoi il t'a connu. N'est-ce pas merveilleux? Nous devons être dans la joie de savoir que ce Dieu nous aime, nous connaît. Et à ce point, à ce titre, nous devons, avec empressement, aller servir ce Dieu. Nous devons aller avec empressement le servir. Parfois, je me dis, oh, si je le connaissais dans ma jeunesse, oh, qu'est-ce que t'en sais? Dieu sait. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui sait à quel moment il te prend. C'est Dieu qui sait à quel moment tu vas faire son œuvre. C'est curieux parfois les choses de Dieu. Moïse, il sort de la maison de l'Éternel. Il a 40 ans. Il va dans le désert pendant 40 ans. Il revient après 40 ans. C'est en ce moment-là que la mission de Dieu commence. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour tout un chacun de nous, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais avant de terminer ce message, je voudrais que je revienne à cet épisode qui nous montre que nous ne pouvons pardonner seulement si Christ est en nous. Ananias savait ce que Saul faisait auprès de l'Église. En allant le voir, il pouvait être en colère. Il savait, Saul était en train d'exterminer les enfants de Dieu, qui était en train d'arrêter les enfants de Dieu. Ananias pouvait être en colère vis-à-vis de ses agissements. Mais comme Christ était en lui, il le remplit de son esprit. Bien-aimé, je ne sais pas si tu peux reprendre cela. Tu es en face de ton bourreau. Celui qui est
l'auteur de ta misère, de tes souffrances, de tes blocages. Tu es en face de lui. Dieu te dit, va, approche. Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu auras la capacité de le faire? Et bien aimé, quand nous sommes avec Christ, nous avons le pouvoir. Nous avons la capacité de pardonner. Quel que soit le mal qu'on peut nous faire, quelles que soient les difficultés, les souffrances que nous pouvons subir, Dieu a donné son Fils pour nous pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner aussi, même ceux qui nous font mal. Il ne faut pas comprendre que cet Ananias vienne devant Saul et dise, frère, mon frère. C'est pourquoi tout à l'heure il disait, dites, mon frère, ma soeur, sois béni. Il dit, mon frère. Il commence à le considérer comme son frère, celui qui était le bourreau, celui qui détruisait, qui arrêtait l'église. Mais bien aimé, je vous l'avouerai, que le pardon est illégal. Allez-y comprendre, si je comprends. Il est illégal. Mais quand nous sommes en Jésus, cachés en Jésus, Jésus étant caché dans le Père, nous pouvons pardonner. Parce que si nous n'avons pas Jésus, nous ne pouvons pas pardonner. Parce que nous allons revoir les souffrances, nous allons revoir les occasions de chute, nous allons voir les inquiétudes, nous allons voir. Mais quand nous sommes en Jésus, nous pouvons pardonner. Notre mission pour le Seigneur nous impose d'être renouvelés, transformés par Christ lui-même. Bannis l'inquiétude, comme dit la parole de Dieu, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. C'est Esaïe qui le dit. Bannis la crainte. Celui qui t'a appelé est fidèle et il le fera. Et bien aimé, Dieu t'a appelé pour une mission. Sois sûr, tu vas passer par les étapes, par les souffrances, par les tribulations. Mais ce que Dieu a décidé pour toi, rends-lui grâce parce que cela s'accomplira. Et quand il s'accomplira, c'est pour que, avec les gens, les anges dans les cieux, on puisse adorer et reconnaître que Dieu est Dieu au-dessus de toutes choses. À celui qui nous a appelés pour sa mission sur cette terre, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen.